mon préféré que j'ai enfin chopé dans ma box. Scotty, Do I Worry, pour tous les vrais. Seuls les vrais savent, toi-même tu sais. Do I Worry. Et je vais laisser la place à Canu Info. Et je remercie donc Richie, Well Well People, Dancehall Social Club. Merci ma poule.
Well Well People. Rasputin.
Well Well Rasputin du coup.
Ah, ce soir au Valseux, c'est ça, ça.
Ah, c'est ça, rendez-vous ce soir. Et si t'es pas là ce soir.
Ou autrement encore le mois prochain sur le Dancehall Social Club, Radio Canu 102.2, tout ça, big up type de face, tout ça, Canu Info dans quelques secondes.
Yes, I do, girl. I can't stop worrying.
Do I worry?
Come on, now, get right
now. Do I worry? Do I worry?
I really worry over you, girl.
Do I worry?
And why you let I fret now?
Do I worry?
Oh.
Do I worry?
Oh. Baby.
Do I worry?
Bonsoir, il est 19h03, vous êtes à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Au programme ce soir, on parlera du président de région Laurent Wauquiez, de sa volonté de mettre en place des portiques dans les lycées de la région et du refus de certains proviseurs qui préfèrent parler de tourniquets. Portiques ou tourniquets donc.
Bon, en tout cas, c'est plutôt Wauquiez qui préfère installer des tourniquets, mais on vous en parlera dans quelques minutes.
Voilà, c'est l'inverse. Autant pour moi. On parlera ensuite de la grève générale annoncée pour le 9 mars, mercredi 9 mars.
Wouhou !
Et on expliquera, on fera un petit retour pour bien expliquer comment se mettre en grève dans son entreprise, quelle qu'elle soit, ou dans le service public. On enchaînera ensuite sur un reportage sur la prostitution en France, puisque la loi sur la pénalisation des clients repasse au Sénat la semaine prochaine. C'est l'occasion, et ce sera l'occasion, de revenir sur ces lois abolitionnistes depuis les années 70 en France et les mobilisations qu'elles ont occasionné. On reviendra ensuite sur les expulsions à Calais cette semaine. On vous parlera, rubrique fétiche du Canu Info du vendredi, du gaz de schiste. Et on terminera sur Fessenheim et le Bugey, ces vieilles cocottes minutes, ces vieilles centrales nucléaires prolongées pour au moins 10 ans et qui inquiètent les pays voisins, notamment l'Allemagne et la Suisse. On commence par l'actu locale.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus.
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous allez dire, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes en chantant.
Et là, on l'a pas mis dans le jingle, mais on aurait pu. On va vous parler maintenant du président de région, Laurent Wauquiez, dont on vous parle depuis quelques mois déjà.
Un sale type, quand même.
Un sale type, mais un type, on va voir, qui joue avec la sémantique. Et notamment, une de ses plus grandes promesses de campagne était, et aussi une des plus contestées, doter chaque lycée d'Auvergne-Rhône-Alpes de portiques de sécurité. Alors un peu là, ça va être le premier camouflet pour le président de région, puisque le lycée de Moirans en Isère, qui avait été désigné pilote, n'en veut pas. L'élu a quand même réussi à imposer un dispositif de sécurité sous la forme de tourniquets, jugé tout aussi inutile par le proviseur de l'établissement, mais visiblement plus facile à imposer que des portiques. Alors, on va un peu revenir sur tout ça. Le 21 janvier dernier, Laurent Wauquiez, donc fraîchement élu à la tête de l'exécutif de la nouvelle région, visite le lycée de Moirans. Donc, l'endroit est quand même un peu symbolique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu des émeutes à Moirans en octobre dernier, notamment parce qu'on avait refusé à une personne de sortir provisoirement de prison pour aller à l'enterrement de son petit frère. Et il y avait eu à ce moment-là 15 interpellations. Et il se trouve que l'établissement était à quelques centaines de mètres des endroits où il y avait eu ces émeutes-là. Du coup, Wauquiez se rend à Moirans, annonce la mise en place rapide, sous un délai d'un mois et demi à deux mois, d'un système de portiques et badges afin de s'assurer que n'importe qui ne puisse pas rentrer dans l'établissement, sachant que le coût annoncé de tout ça est de plus de 100 000 euros par établissement. Donc ce lycée est pilote et les objectifs de Wauquiez sont la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre les intrusions d'armes à feu et la protection dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais directement après ces effets d'annonce, on se rend compte que les équipes techniques et le proviseur désavouent Laurent Wauquiez et expliquent que ces mesures sont inutiles et très coûteuses. Notamment le proviseur, il explique qu'ici, ils n'ont pas de problème d'intrusion. Donc finalement, portique ou tourniquet, ça ne sert à rien. C'est un lycée très tranquille, même s'il y a beaucoup de flux. Une réunion technique est organisée le 29 janvier pour évoquer la mise en place des portiques de Laurent Wauquiez. Elle aboutit du coup à un consensus dans l'établissement, l'abandon des portiques de sécurité. C'est le proviseur qui l'écrit sur le blog du lycée dans un post intitulé « Sécurité des élèves et des personnels du lycée Pierre Béguin ». Vous pouvez du coup retrouver ça sur Internet. Alors, qu'est-ce que va faire Wauquiez? Parce que quand même, c'était une de ses grandes promesses de campagne, les portiques. Il va dire, finalement, s'il n'y a pas de portiques, il peut avoir des tourniquets. Donc, à la place des portiques, l'idée de mettre des tourniquets, autrement appelé tripode escamotable, a été évoquée. Mais cette piste a également été abandonnée lors de la réunion technique au lycée. Alors, le proviseur s'en est expliqué. Pour lui, il y a deux problèmes avec ces tripodes escamotables. D'abord, un problème de sécurité. Effectivement, les tourniquets sont facilement franchissables. Et le proviseur prend l'exemple du métro parisien, dont on peut sauter les tourniquets et qui servent à peu de choses. Et le deuxième problème que voit le proviseur, ça va être un problème de flux. Et donc, il explique qu'il a 1000 élèves et entre 100 et 300 adultes pour la formation continue. Donc, il se pose un peu la question du fonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait si les élèves ont oublié leur bac? Les personnes qui arrivent de manière ponctuelle. Donc il explique que cette question du tourniquet, au contraire de garantir la sécurité, va plutôt renforcer la difficulté à rentrer et à sortir de l'établissement. Donc à Moirans, même si les tripodes escamotables ne correspondent pas aux besoins, la région a décidé d'en installer 6, 3 par entrée principale et à 5000 euros pièce. Ils seront installés derrière les deux portails. Et donc la région assure au proviseur qu'avec ces 6 tourniquets, le problème des flux sera réglé. On ne sait pas vraiment comment, mais en tout cas, c'est ce qu'affirme le président de région. Élément censé rassurer les usagers du lycée, les tripodes seront connectés à l'alarme incendie. Donc en cas de déclenchement de l'alarme, ils seront désactivés. L'exécutif régional a également répondu à la demande d'installation de 4 caméras de vidéosurveillance, de la commande à distance de ses portails et d'interphones, comme le souhaitait par contre le proviseur. Tout ça, du coup, ça pose un peu des questions du sens de l'utilisation de l'enveloppe financière par le président d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça pose aussi la question de réponses qui sont... adapté aux difficultés que rencontrent les lycées. On pourrait dire qu'on pourrait mettre par exemple plus d'argent dans l'éducation que dans la sécurité, surtout quand on se rend compte que ça ne sert à rien. Ça, c'est aussi un peu les problèmes d'une fuite en avant électorale où finalement, Laurent Wauquiez continue à vouloir installer des portiques ou à défaut des tourniquets, puisque c'était une de ses campagnes électorales, puisque c'est aussi une des choses sur lesquelles il a un accès, il a un pouvoir en tant que président de région, puisque faut savoir que si la sécurité était un de ses principales chevals de bataille, il n'a souvent pas la main mise sur ces questions-là. Il faut aussi voir que sa proposition des tourniquets, Laurent Wauquiez l'avait opportunément annoncé le 21 novembre dernier, soit quelques jours à peine après les attentats de Paris et Saint-Denis, et qu'il surfait à ce moment-là vraiment sur la vague sécuritaire qui gagnait le pays. Le responsable des Républicains avait même proposé de créer une sorte de Guantanamo français, on s'en souvient, pour interner préventivement toutes les personnes fichées S. Donc pour revenir en conclusion sur la sécurité des lycées, sa proposition peut être jugée d'autant plus opportuniste que le cas des violences constatées ne concerne quasiment jamais l'introduction d'armes à feu et encore moins d'actes à dimension terroriste. Selon le dernier rapport de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance de l'éducation nationale, la violence dans les lycées est plutôt stable et concerne essentiellement les atteintes aux personnes et des violences verbales, des situations qu'encore une fois les portiques de sécurité, quelle que soit leur nature, auront du mal à régler.
Et est-ce qu'il veut les généraliser à plusieurs lycées ou c'est juste une annonce de com pour Moirans et quelques autres?
En tout cas, maintenant, il dit vouloir les généraliser à plusieurs lycées et en disant que Moirans, c'est un lycée pilote. Mais que normalement, ce serait quelque chose qu'il installerait partout. Et du coup, là, on se rend compte que pour l'instant, ce qu'il a mis en place à Moirans, c'est une enveloppe de 25 000 euros pour les tourniquets. Mais ça, ça ne prend pas en compte ni les caméras de surveillance, ni les dispositifs de mise à distance d'actionnement ou de désactionnement. Donc, on peut penser que c'est plutôt des enveloppes entre 50 000 et 60 000 euros par établissement.
D'accord. Très bien. On enchaîne.
Canut. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Mercredi, c'est grève générale partout en France et notamment à Lyon. On vous en parle tout de suite avec un spécialiste.
C'est pas ma spécialité. Mais c'est pas seulement une grève, c'est le début de la révolution, on dit. Donc oui, voilà. Oula, peut-être ça vous pète les oreilles, là. Du coup... Donc voilà, 9 mars, donc il y a eu un appel à la grève générale. Donc ça fait suite au projet de loi sur le code du travail. Donc c'est la ministre du Travail, donc El Khomri. Donc je vais déjà vous donner un peu les quelques nouveautés de cette fameuse réforme du code du travail et ensuite vu qu'il s'agit d'un appel à la grève générale, on va vous donner un peu en essayant d'être le moins confus possible, les différents moyens de se mettre en grève en fonction de là où vous travaillez et de votre type de contrat, etc., etc. Pour que vous puissiez vous aussi venir le 9 mars participer au début de la révolution. Donc, alors dans ce projet de loi, qu'est-ce qui va changer ? Alors, notamment, donc, ce qui va changer, c'est que en cas de licenciement illégal, voilà, donc l'indemnité prud'homale, donc après on a affaire au prud'homme, est plafonnée à 15 mois de salaire. Donc ils ont, voilà, ils ont mis une limite là-dessus. Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures pourront être fractionnées. Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires et changer de temps de travail.
Troisième cadeau d'entreprise.
C'est absolument génial. Les temps d'astreinte peuvent être décomptés des temps de repos. Voilà, pareil.
Proposition de Pierre Gattaz.
Le dispositif forfait jour, donc, qui permet de ne pas décompter les heures de travail, est étendu. Donc voilà, je crois que pour l'instant ça concerne essentiellement que les cadres, je crois, il me semble. Les apprentis mineurs pourront travailler, donc pas les apprentis, enfin bref, pourront travailler 10 heures par jour et 40 heures par semaine, ils vont être super contents. Le plancher de 24 heures hebdomadaires pour un contrat à temps partiel n'est plus la règle dans la loi. Il suffira d'un accord d'entreprise pour que les heures supplémentaires soient 5 fois moins majorées.
Donc il n'y a plus vraiment de règles dans la loi.
Voilà, tout est régi ensuite par ce que l'entreprise a envie de faire par rapport aux salariés, par rapport au salaire, par rapport aux heures. Donc voilà, une mesure peut être imposée par référendum contre l'avis de 70% des syndicats. Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques. Donc voilà, ça fait presque marrer. Après un accord d'entreprise, un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail peut être licencié. Donc voilà, en gros, s'il refuse un peu tout ce qu'on vient de dire, dégage. Par simple accord, on peut passer de 10 heures à 12 heures de travail maximum par jour. Donc voilà. En fait, là, je viens de vous dire en fait la liste qui avait été proposée dans une pétition qui a été lancée et qui a donné lieu ensuite à cet appel général à la grève. Donc voilà. Alors du coup, on parle de grève, mais alors la grève, comment on peut la faire et quels sont nos droits, etc. Alors il y a deux grands trucs. Soit on est dans le privé, soit on est dans le public. Je vais commencer par le public, c'est le plus simple. Dans le secteur public, donc pour faire grève, il faut qu'il y ait au moins une organisation syndicale nationalement représentative qui ait déposé un préavis. Donc là, pour le 9 mars, c'est le cas. Ça dépend du le préavis. Il faut qu'il soit déposé 5 jours avant le début de la grève et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les revendications, etc.
Et là, du coup, ça peut vraiment être la grève générale assez longuement, puisque le préavis a été déposé à partir du 8 mars et qui court jusqu'à avril.
Oui, voilà, oui. Et d'ailleurs, et après, il y a un autre, le 31 mars, je crois, il y a une autre grève de... Enfin, voilà. Donc, le préavis n'est pas obligatoire pour les agents travaillant dans des communes de moins de 10 000 habitants. Ensuite, dans certains... Alors après, il y a des spécificités pour le public, c'est que dans certains secteurs, comme par exemple le milieu hospitalier, il peut y avoir ce qu'on appelle l'obligation de service minimum. Et donc voilà. Et donc dans ces cas-là, et seulement lorsque le nombre de non-grévistes est insuffisant, donc l'autorité, le maire, le président de la collectivité territoriale, etc., peut désigner des agents grévistes pour assurer la continuité du service. Et pour les enseignants, il y a aussi un peu ce service minimum d'accueil, donc qui peuvent obliger les grévistes à, qui oblige en tout cas les grévistes à déclarer à leur inspection académique au moins 48 heures avant la grève qu'ils se mettent en grève. Donc voilà. Après, pour le secteur privé, alors bon, je suis peut-être un peu confus parce que je suis noyé dans mes notes que j'ai perdues. Pour le privé, c'est un peu plus compliqué. Enfin, compliqué. Donc, pareil, bon, tout le monde a le droit de faire grève. Alors, on va détailler un peu. S'il y a un appel national ou un appel général, comme ça, ou que certaines fédérations syndicales font, se déposent des préavis, etc., on peut se mettre en grève, même si on est tout seul dans l'entreprise à se mettre en grève. On n'est pas obligé que toute la boîte se mette en grève. En revanche, s'il n'y a pas d'appel pour se mettre en grève, il faut être un mouvement collectif. Et le mouvement collectif, selon la loi, c'est deux personnes au moins. Donc si on est tout seul, ça marche pas. Donc faut au moins être deux. C'est un peu la contrainte. Et dans ce cas-là, il faut simplement déclarer qu'on fait grève et donner les revendications à l'employeur.
Demain, j'ai révolution, par exemple.
Voilà, je sais pas les revendications. Généralement, c'est simple quand il y a le mot d'ordre national, etc. Comme ça, on reprend juste ça. Après, ça peut être des revendications propres à la boîte. Si on a marre de certains trucs professionnels. Voilà.
Mais pour le 9 mars, c'est relativement simple.
Pour le 9 mars, c'est relativement simple. Peut-être à la fin, je redétaillerai vite fait, si j'ai le temps, les différents syndicats qui ont appelé à la grève, parce qu'il n'y a pas eu d'appel interprofessionnel. Donc c'est chaque profession qui a déclaré son truc. Donc voilà. Donc après, ça vous permettra peut-être de vous rattacher à un de ces appels-là. Donc voilà. Alors après, quand on est dans le privé, qu'est-ce qui se passe en fonction du type de contrat, parce qu'il y en a, quand même pas mal. Donc si on est en CDI, on prend pas beaucoup de risques à faire grève. Après, l'employeur, il peut toujours faire chier, puisqu'il n'a pas le droit de grève, c'est pas un motif pour renvoyer quelqu'un, le licencier, ou etc. Par contre, après, il peut trouver des milliards d'autres motifs pour un peu faire pression. Donc voilà, quand on a un CDI, c'est plus compliqué pour virer quelqu'un, mais ça peut être du harcèlement, de mise au placard, etc. En CDD, c'est un peu plus chaud, puisqu'il peut très bien ne pas vouloir renouveler le CDD. Donc
ça marche aussi pour les gens qui sont en CDD dans la fonction publique, ça.
Ils sont très nombreux. Ça peut être brandi comme une menace pour pas faire grève. Donc, et ça, ce truc du propre au CDD, en fait, on le retrouve après sur tous les contrats un peu précaires, donc qui sont de l'intérim, quand on est en intérim, quand on est en période d'essai, quand on est, tous ces contrats-là. Après, dans tous les cas, on a le droit de faire grève, c'est constitutionnel, je dirais, un peu comme l'état d'urgence. Donc on a complètement le droit de faire grève et on ne peut pas être attaqué pour ça. Si, et il faut au moins être deux, etc., et suivre l'appel. Et après, quand même, donc faire attention de pas se faire piéger et de bien relever un peu aussi toutes les menaces qui peuvent être faites, parce que ça peut permettre après d'attaquer l'employeur au prud'homme, etc. Et d'obtenir les fameux 15 mois qui sont plafonnés. Donc ça, c'était pour un peu faire le tour de ce qui est possible de faire. Donc là, pour le 9 mars, je peux peut-être dire vite fait au niveau national pour les entreprises. Donc, en fonction d'un peu des groupes sur lesquels vous pouvez vous rattacher. Donc à la SNCF, il y a l'appel de l'intersyndicale. Air France, il y a un préavis de la CGT. PSA, filiale et sous-traitance, et CGT aussi. À l'inspection du travail, l'appel de la CNT. France Télévision, c'est CGT. Sécurité sociale, CGT. La Poste, préavis donc national de Sud PTT. Donc voilà. Et puis il y a quoi d'autre, recherche scientifique, il y a appel aussi de la CGT. Alors après, on n'est pas obligé d'être syndiqué pour suivre ces appels-là, en fait. Donc ça, faut bien aussi, même si on n'est pas syndiqué, c'est pas très grave. On peut quand même,
on peut faire grève,
mais surtout se rattacher à un des appels syndicaux. Donc voilà. Voilà, après je sais pas, ben ouais, j'ai un peu fait le tour de.
Et on rappelle donc du coup que à Lyon, le rendez-vous pour la manifestation est place Bellecour à 13h.
Voilà, mercredi 9 mars.
Il y aura du monde, alors venez, on sera encore plus nombreux.
Voilà, voilà.
Et on enchaîne tout de suite sur un dossier prostitution, puisque la loi qui vise à pénaliser les clients passe au Sénat la semaine prochaine, une nouvelle fois. C'est un long feuilleton législatif. On revient donc sur ce dossier depuis les années 70 en France.
Mais c'est très bien qu'il y ait le salon de l'érotisme. Mais là aussi, c'est la distance entre le discours qui est tenu pour nous, les prostituées, et ce qui se met en place socialement. C'est une distance infinie. Et finalement, dans le sex appeal comme ça, qui s'est démocratisé, et cette assignation à être sexy pour les femmes, c'est sans doute un vieux malentendu entre les putes et les autres femmes.
Ben, dis donc, ce serait pas le Canu Info ?
Si, si, et c'est un reportage. Alors que le feuilleton législatif visant à pénaliser les clients des prostituées dure depuis plus de 3 ans, Canu Info propose de revenir sur les législations qui encadrent les travailleurs et travailleuses du sexe en France depuis les années 70, ainsi que sur les mouvements de contestation que chaque nouvelle loi abolitionniste a provoqué depuis.
En tant que telle, la prostitution n'est pas violente. Ce qui la rend violente, c'est les conditions d'exercice. Et les conditions d'exercice, elles sont complètement indépendantes des lois prohibitionnistes qu'on subit actuellement. Donc les gens qui nous disent on va lutter contre la violence faite aux femmes, la première des choses pour lutter contre les violences, c'est de dépénaliser le travail sexuel.
Vous pourrez entendre des entretiens avec des prostituées, un chercheur en sciences sociales ou encore des slogans de manifestation tirés des journaux télévisés, de l'émission Infrarouge sur le travail du sexe de novembre 2014 ou encore du formidable web documentaire de rue 89 Lyon. Bonne écoute sur Radio Canu.
On passe mon temps à m'appeler sale pute ici, là, les gens qui passent. Alors moi, pour résoudre le problème, je m'appelle moi-même pute. Moi, je suis une pute, voilà. Il n'y a que le mot sale qui me dérange, j'ai déjà gagné la moitié, donc le mot pute ne me dérange pas, il n'y a plus que le mot sale qui me dérange. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est des dénominatifs qui ne concernent même pas. Moi, je fais mon métier, qui est la prostitution. On m'appelle travailleuse du sexe, on m'appelle personne prostituée, on m'appelle putain, on m'appelle pute, on m'appelle comme on veut, ça m'est égal.
Les différents systèmes de législation sur la prostitution, d'après Sonia, prostituée à Bruxelles.
Il y a plusieurs systèmes. Il y a le système réglementariste, qui est un système qui réglemente la prostitution, comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne, comme en Suisse. Donc c'est réglementé. Il y a des lois qui sont faites pour la prostituée. Et les prostituées ont des devoirs et des droits, comme tout être citoyen. Il y a le système abolitionniste, qui est un système qui est pour l'abolition, mais de toute réglementation sur la prostitution. Et ce système-là, c'est comme ici en Belgique, c'est comme en France, c'est un système... Les prostituées peuvent exister, mais elles n'ont aucun droit. Sauf le droit de payer des impôts. Parce que ça, c'est un droit qui reste. Parce qu'on travaille. Et même si c'est un travail illégal, théoriquement, on doit payer des impôts. Et puis, il y a le système prohibitionniste, qui est un système qui prohibe totalement la prostitution et qui n'accepte aucune forme de prostitution. Totale. Voilà, ça c'est les trois grands systèmes en vigueur.
La France, qui a été le pays d'origine du réglementarisme avec ses maisons closes, change d'orientation en 1946 et adopte un régime abolitionniste. À partir de 1958, la police peut mettre des contraventions pour racolage.
À Lyon, en 1975, de nombreux hôtels de passe ferment, ce qui contraint les prostituées à exercer dans la rue. La répression policière est forte. Les prostituées se voient infliger de nombreux PV pour racolage, font face à de nombreuses et fréquentes rafles et mises en garde à vue, mais aussi à l'augmentation du nombre d'agressions.
Parallèlement à cela, on voit proposer à l'ordre du jour une loi qui sanctionnerait de peine de prison la récidive de racolage. Sous le mot d'ordre, nos enfants ne veulent pas que leur mère aille en prison. Une centaine de prostituées de Lyon se rassemblent et occupent l'église Saint-Lizier, alors au cœur du quartier traditionnel de la prostitution, pour se faire entendre.
Puis maintenant, bon, c'est le cri qu'on a lancé sur les radios, c'est le cri qu'on lance dans les télévisions, c'est le cri qu'on lance partout, que toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous églises parce que nous aider, parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant ce n'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. Et que Mme Françoise Giroud refuse de s'occuper de nous parce qu'elle ne nous considère pas comme des femmes. Elle nous considère comme des prostituées, donc des putains, donc rien du tout. Et on nous dit que c'est M. Poniatowski qui doit s'occuper de nous. M. Poniatowski, pour l'instant, ne veut pas s'occuper de nous parce que ce n'est pas non plus son problème. Alors c'est le problème de personne. Alors on voudrait que quelqu'un prenne la parole et nous mette au courant de, en nous disant à qui ça regarde.
On ne sortira pas tant qu'on n'a pas obtenu des résultats.
Très haute en étant femme et mère. Et pas en étant un sexe et un bas-ventre que les types attendent dehors pour leur sauter dessus.
En 1975, l'église de Saint-Lizier, occupée à Lyon par les prostituées, est rapidement évacuée par la police. Le mouvement ne permettra aucune traduction concrète dans la loi.
En mai 2002, le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, obnubilé par la thématique de l'insécurité, annonce clairement que pour lui, la prostitution et les problèmes qui l'accompagnent, comme par exemple les nuisances dont certains riverains se plaignent, ont à voir avec la délinquance et doivent donc être traités comme tels. Le ministre annonce alors que la loi qu'il prépare sur la sécurité intérieure comportera des dispositions autorisant la reconduite à la frontière des prostituées étrangères coupables de racolage, puis que le délit de racolage passif retiré du code pénal en 1994 sera réintroduit en exposant ses auteurs à des peines de prison et à de fortes amendes.
Isabelle, travailleuse du sexe à Toulouse.
La loi qui pénalise le racolage est venue en même temps qu'une grande inquiétude au niveau de mouvements migratoires. Donc la loi sur le racolage, et ça peut se constater sur le terrain, sert vraisemblablement à limiter les mouvements migratoires de personnes. Et c'est plus ça qui inquiète le politique à l'heure actuelle, d'ailleurs, que la victimisation ou l'exploitation, malheureusement.
Confrontées en 1975 et 2002 à la répression policière, les prostituées ont en ces deux occasions tenté de se mobiliser. Si lors de leur premier mouvement de protestation, elles ont pu disposer du soutien actif de militantes abolitionnistes et féministes malgré de profondes divergences de vision de la prostitution, une telle alliance n'a pu être conduite 27 ans plus tard, en 2002.
Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité lyonnaise, mais la ville de Lyon met en scène de manière exacerbée des processus qu'on retrouve, ou des méthodes qu'on retrouve ailleurs.
Lilian Mathieu, chargée de recherche au CNRS.
La ville de Lyon a effectivement anticipé en 2002 la loi sur la sécurité intérieure, donc la pénalisation du racolage, en interdisant l'activité des prostituées dans le centre de la Presqu'île, quoi, le nord du deuxième arrondissement et le sud du premier, là qui était un peu le quartier traditionnel de, pas le seul, mais le quartier traditionnel de prostitution depuis le Moyen-Âge. La rupture, elle intervient à l'été 2002, où le maire de Lyon prend tout seul la décision d'interdire le racolage dans la Presqu'île, avec consigne qui est donnée par les policiers aux prostituées d'aller au sud de Perrache, de l'autre côté des voûtes. Bon, ce qu'elles font. Le problème, c'est que elles s'équipent donc de camionnettes pour ne plus être visibles et être soumises à la pénalisation pour racolage. Et leur activité, elle est concentrée dans cet espace. C'est-à-dire, la confluence, c'est quoi? C'est le marché-gare, c'est la prison, la piscine, la patinoire Charlemagne et des logements de couches plutôt populaires et vieillissantes. Et pas d'activité de loisirs véritablement. Donc quartier de relégation. Donc on peut se permettre de concentrer les prostituées là. Le problème, c'est quand il y a la biennale d'art contemporain, que les gens prennent le tramway pour se rendre à la pointe de la presqu'île, ben, ça fait désordre de traverser toute cette haie de camionnettes. Et puis c'est aussi que Confluence est destinée à devenir la nouvelle frontière de Lyon, c'est-à-dire un centre culturel, politique, économique, commercial, tout ce que vous voulez. Donc à nouveau, elles seront indésirables. C'est-à-dire que on voit comment la politique de la prostitution suit la politique urbaine de la ville. Des couches favorisées, de classes moyennes favorisées, qui sont destinées à peupler les quartiers gentrifiés de... C'est ça la gentrification, hein, les anciens quartiers populaires qui sont réhabilités pour en faire ressortir le patrimoine. Les quartiers d'activités touristiques, d'activités commerciales, les quartiers d'affaires. Et puis, les fractions les plus dominées de la population, qui sont les prostituées, qui sont aussi les Roms, qui sont les clodos, qui sont tous les gens qui font tâche dans le paysage. Donc on est dans cette logique-là qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes, hein, des logiques de prestige et de moralisation de l'espace urbain.
En 2011, puis en 2013, un groupe de parlementaires socialistes formule une proposition de loi visant à pénaliser les clients de prostituées.
En février 2016, cette loi n'est toujours pas passée. La principale ligne des arguments des abolitionnistes de gauche prétend protéger les femmes, présentées comme uniquement victimes du système de prostitution. De plus, certains mouvements féministes abolitionnistes souhaitent la mise en place de telles lois pour lutter contre la marchandisation des corps. C'est le cas des fémènes.
Nous ne pas aux femmes prostituées en tant qu'elles. Et voilà, nous luttons contre un système où on a un client acheteur, un proxénète vendeur et la femme au milieu qui est la marchandise. Voilà.
Témoignage de travailleuses du sexe.
C'est pas un choix à proprement dit, le premier jour. Parce qu'aucune petite fille de 10 ans va dire je veux être prostituée. Ça n'existe pas, ça. Ou alors, je connais pas si ça existe. Mais c'est un ultimatum qui se produit dans la vie de quelqu'un. On n'a plus de choix, donc on n'a que ce choix-là. Mais si ça ne va pas, moi j'ai vu des filles arriver qui repartaient. Elles restaient à moins de moi, me disaient je ne peux pas, je ne peux pas, moi je peux.
J'ai toujours dit que pour moi, la prostitution pour une femme qui déteste faire ça, c'est effectivement une des pires choses qui peut arriver à quelqu'un.
Les femmes ou les hommes ou les trans prostituées qui le choisissent sont des gens qui ont un métier, point. On ne parle pas des femmes qui sont des victimes dans cette histoire, on parle de gens qui ont une situation. Pour ce qui est des autres qui le subissent, il y a effectivement des femmes qui le subissent, il y a des hommes qui le subissent, il y a des trans qui le subissent, il y a même des enfants qui le subissent, on n'arrête pas d'en parler.
Face à la consolidation de l'arsenal abolitionniste, les luttes de prostituées reprennent la rue, comme en 1975 et en 2002.
Cela va encore éloigner les travailleurs du sexe des lieux où il y a du monde. Cela va les exposer beaucoup plus aux agressions. Cela va accroître leur précarité, leur vulnérabilité. Et cela constituera une entrave à leur accès aux droits et à la justice.
Sarah Marie, membre du STRAS, syndicat du travail sexuel, en manifestation 2011.
C'est une loi qui est menée par un lobby féministe d'arrière-garde qui conçoit le travail sexuel comme une violence en soi, alors que la violence vient justement des discours à l'encontre des travailleurs du sexe qui considèrent que le travail sexuel, ce serait vendre son corps. Pour les travailleurs du sexe, dire que le travail sexuel, c'est vendre son corps, c'est une violence parce que cela est faux. Ils fournissent un service sexuel, ils ne vendent pas leur corps.
Quand on est plus précarisé parce qu'on doit se cacher, etc., c'est beaucoup plus difficile pour nous d'imposer nos conditions, notamment sur le port du préservatif, notamment sur certaines pratiques.
Demandons au gouvernement qu'il légitime les travailleurs du sexe comme un travail normal, que nous pouvons payer nos impôts, que nous pouvons déclarer notre revenu, que nous pouvons toucher un jour la retraite.
La retraite, on la veut, même s'il faut sucer des gueules.
Dans le
le combat contre la prostitution, il y a un combat pour le contrôle de la sexualité des gens, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Parce que nous, on est aussi l'épouvantail. Parce que grâce à nous, justement, on dit aux autres femmes qui auraient trop envie d'être libérées, oui, mais attention, hein, si vous devenez vraiment une pute, on va vous démolir, quoi. Donc on contrôle la sexualité des femmes. Mais on dit aussi aux hommes, les femmes que vous allez payer, c'est dans la boue que vous allez devoir les baiser. Que tirer un coup tranquille quand ils en ont envie ne soit pas une chose trop agréable et facile. Que leur sexualité doit rester problématique et culpabilisante. Qu'ils jouissent en payant s'ils veulent, mais alors qu'ils côtoient la pourriture, la honte et la misère. C'est aussi leur manière de dire, attention, il y a les mères et il y a les putes.
D'être toujours à l'écoute sur Radio Canu. Alors, on en a entendu parler dans ce reportage. Depuis 2013, une proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel est en débat. L'une des mesures phares de ce texte est la pénalisation des clients des prostituées qui encourent une contravention allant jusqu'à 1 500 euros et 3 750 en cas de récidive. En plus de ce point, cette proposition contient un volet dit plus social qui veut renforcer les moyens d'enquête et de poursuite des auteurs de la traite des êtres humains et de proxénétisme, ainsi qu'améliorer la protection et l'accompagnement des victimes du proxénétisme, notamment en leur proposant un parcours de sortie de la prostitution. Il y a également la volonté de prévention destinée notamment aux lycéens afin de réduire le recours à la prostitution. Donc rapidement, cette loi, elle a déjà fait deux fois la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat, lui, les deux fois, il a rejeté la partie sur la pénalisation des clients. En février, elle a été à nouveau adoptée dans son ensemble par l'Assemblée nationale et elle va donc repasser devant le Sénat ce jeudi 10 mars. Si à nouveau ils ne votent pas le texte à l'identique et suppriment le volet pénalisation, il faudra un ultime vote des députés. Mais si l'article sur la pénalisation est adopté, alors la prostitution de rue sera de nouveau menacée. Donc l'objectif principal de ce texte est, selon ses auteurs, je cite, « de faire prendre conscience que la prostitution est dans l'immense majorité des cas une violence à l'égard de personnes démunies et une exploitation des plus faibles par des proxénètes, qu'ils agissent de manière individuelle ou dans des réseaux réalisant des profits très élevés, la traite se cumulant souvent avec d'autres trafics. » Mais donc, on le sait, toutes les personnes qui se prostituent ne sont pas des victimes, même si, bien sûr, il y en a. Et sauf qu'on retrouve cette idée un peu dans chaque système d'encadrement de la prostitution. Donc justement, pour faire un petit point rapide sur ces grands systèmes qui, dans tous les cas, oublient malheureusement de prendre en compte la parole des personnes concernées et préfèrent penser ce qui est bien pour elles à leur place. Donc on a le prohibitionnisme qui vise à interdire la prostitution, mais qui peut évidemment pas comme ça y mettre fin, ni mettre fin à l'exploitation. Et il peut seulement la cacher, donc la perpétrer, voire la renforcer, puisqu'en effet, toujours repoussée plus loin dans la ville, dans des endroits plus isolés, plus dangereux, on précarise et on vulnérabilise les travailleurs du sexe toujours un peu plus, mais on se donne bonne conscience, puisqu'on les voit moins. Ensuite, le réglementarisme, qui vise à réglementer l'exercice de la prostitution. Donc ces politiques réglementaristes, elles prônent le contrôle et l'encadrement du travail sexuel par l'État et vont bien souvent à l'encontre de la liberté des travailleurs du sexe qui sont dès lors définis comme une population spécifique à encadrer, à contrôler et de ce fait infantilisée. Donc de la sorte, le réglementarisme n'est a priori d'aucune façon une réponse adéquate aux besoins et aux revendications des personnes prostituées elles-mêmes et contribue au contraire à renforcer le pouvoir de l'État et des proxénètes sur elles, au détriment de leur autonomie et de leur liberté. On peut en plus assez facilement imaginer les conséquences de systèmes qui entraînent deux niveaux avec un côté la prostitution légale, encadrée et contrôlée, et l'autre, celle qui reste illégale et dans la clandestinité, donc encore plus vulnérable. Enfin, le système abolitionniste qui vise l'abolition de toute forme de réglementation concernant la prostitution et qui parfois revendique aussi la disparition de la prostitution. Or, souvent, la représentation que les abolitionnistes restent des personnes prostituées ne peut pas s'entendre comme telle parce que, bien souvent sans nuance et sans contraste, puisqu'ils voudraient voir en elles que des victimes, ce qui leur permet alors de parler à leur place et de décider ce qui est bon pour elles. Bien qu'il y en ait, toutes les personnes qui se prostituent ne sont pas des victimes, des inadaptés ou des esclaves. Ce regard misérabiliste et dévalorisant rend donc les personnes comme incapables de mener leur vie de manière autonome et d'être partie prenante des décisions qui les concernent. Cette attitude, elle est également assez dangereuse, puisqu'en plus de dresser un portrait erroné du monde de la prostitution, les abolitionnistes s'appuient sur celui-ci pour préconiser des politiques qui sont de fait inadaptées à la réalité. Puisqu'il faut bien convenir qu'une politique publique efficace, elle ne peut pas se faire sans la consultation et la participation permanente des personnes concernées. Et les personnes concernées, elles se mobilisent régulièrement depuis de nombreuses années. Rapidement, on peut citer les actions du STRAS, qui, depuis 2009, le STRAS, c'est le syndicat du travail sexuel, et lutte pour la reconnaissance par l'État du travail sexuel sous un régime de droit commun, pour l'abrogation de toutes les réglementations d'exception entourant le travail sexuel, et tout particulièrement contre toute criminalisation, pénalisation concernant les travailleurs sexuels, ainsi que leurs clients. Donc, pour revenir à la proposition de loi pénalisant les clients, la majorité des travailleurs du sexe et des associations de soutien défendent qu'elle ne fera pas disparaître la prostitution, mais elle accentuera plutôt la précarisation des prostituées en les forçant davantage à la clandestinité, en les éloignant des associations de soutien de santé communautaire, des structures de soins, etc. Voilà, je vais finir en citant Michel Foucault qui dit « L'hégémonie du paradigme abolitionniste dans les politiques publiques peut être considérée comme visant avant tout à un contrôle plus grand des populations par l'État. On constate que les personnes prostituées, surtout lorsqu'elles sont étrangères, passent rapidement du statut d'individu en danger à celui d'individu dangereux. »
Voilà, merci bien. Et donc, vous pouvez consulter notamment sur Rue 89 Lyon un super web documentaire sur le sujet et on vous en reparlera bientôt, donc, puisque toute cette loi repasse au Sénat. Tout de suite, on vous parle de Calais.
Et oui, on en parle moins un peu dans les médias dans les derniers jours, mais le démantèlement de la partie sud de la jungle des Calais continue. Donc elle avait commencé lundi dans un climat qui était très tendu, avec des incendies, des jets de gaz lacrymogène par la police. Hier, on était jeudi au jour 4 de ce démantèlement, et le 20% de la zone sud de la jungle était détruite. Tout ça continue. Les CRS avancent méthodiquement, rigoureusement et rapidement. Les gouvernements avaient promis pas des bulldozers, mais les pelleteuses détruisent quand même les cabanes. Donc, quelle est la différence? On ne sait pas. La violence la plus visible, comme lundi ou mardi matin, semble s'estomper, même si la situation reste extrêmement tendue. Reste la violence la plus profonde, ces personnes dont on détruit les seules habitations qu'elles ont, avec souvent leur seul bien à l'intérieur. La répétition de ce qui se passe à Calais depuis la fermeture du centre des Sangattes en 2002, mais à une toute autre échelle. C'est une petite ville de 6000 à 8000 habitants qui va être rayée de la carte. Donc, pour protester contre cette violence, 8 personnes de nationalité iranienne se sont cousues la bouche et ont entamé une grève de la faim mercredi. Donc, ils ont été rejoints petit à petit par d'autres migrants. Ils étaient une douzaine aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que ça ne va pas donner grand-chose, mais c'est quand même très médiatisé, très impressionnant. Et pour le coup, on a une petite bonne nouvelle, s'il y en a dans toute cette histoire, c'est qu'il y avait 2 personnes de nationalité britannique et allemande qui comparaissaient au tribunal des Boulogne-sur-Mer pour avoir provoqué des incendies dans la jungle lundi. Alors, ces 2 personnes qui se sont déclarées à l'audience militants associatifs avaient été interpellées lors des heures survenues pendant le démantèlement du Parti de la Jungle. Le Britannique, la personne de nationalité britannique, comparaissait pour tentative de destruction par incendie et la personne de nationalité allemande pour destruction par incendie. Alors, cette dernière s'est présentée à l'audience et s'est présentée comme bénévole de l'association française l'Auberge des Migrants. Et le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuves certaines permettant d'établir la culpabilité de la jeune femme. Et pour l'autre personne, le parquet n'avait pas requis de peine, jugeant le dossier pas très clair, je cite, « puisque les déclarations des policiers sont divergentes sur les faits reprochés aux prévenus ». Et sachant que ces 2 personnes ont été présentées comme des militants du groupe No Border, qui est extrêmement stigmatisé en ces moments par les médias.
Et Cazeneuve aussi.
Et Cazeneuve et Nathalie Bouchard, la maire de Calais, qui disait à la radio l'autre jour que les no-borders, ils infiltrent les associations et ils manipulent les migrants en travaillant leur libre choix de repartir loin de Calais, bah ce oui, qu'ils veulent évidemment faire.
Les migrants, ils ne peuvent pas réfléchir tout seuls, ils ont besoin des autres.
Tout à fait.
C'est bien. Alors, raciste, ça,
brièvement, qu'est-ce qui se passe pour du coup les personnes dont les cabanes et les habitations ont été détruites? Bon, il y a 125 conteneurs qui ont été construits dans la zone ouest de la jungle qui peuvent accueillir 1500 personnes. Mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie d'y aller parce que du coup, il faut donner ses empreintes. En fait, il y a une espèce de truc très technologique. Pour rentrer, il faut juste mettre sa main et il y a un système qui détecte tes empreintes et tu rentres. Donc les gens qui ne veulent pas être fichés n'ont pas très confiance de ce système. Donc il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Il y a d'autres migrants qui sont petit à petit transportés dans de centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France. 18 migrants étaient transportés à Montpellier le 1er mars. Donc on se demande pourquoi des gens qui étaient à Calais pour arriver en Grande-Bretagne voudraient aller à Montpellier. Effectivement, ils sont repartis le lendemain, la plupart d'eux. Et dernière petite info, qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique? Et ben, les rapports sont un peu tendus entre la France et la Grande-Bretagne. Hier, le 3 mars, a eu lieu le 34e sommet franco-britannique à Amiens. Évidemment, on parlait de Calais. Et le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, avait affirmé la veille que le jour où la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, les migrants ne seront plus à Calais. C'est-à-dire qu'ils arrêtent tout contrôle à la frontière. Donc c'était super comme nouvelle. On était tous contents. Et en fait, du coup, la menace a bien marché parce que David Cameron s'est engagé à augmenter de 22 millions d'euros son aide à la France, sans qu'il s'ajouterait aux 60 millions déjà alloués à la France pour renforcer le dispositif sécuritaire à Calais et donc empêcher les migrants de passer en Grande-Bretagne.
Construire des plus grands barbelés.
Tout à fait.
Donc, et sans transition ou presque, on part de Calais à Barjac pour vous parler du gaz de schiste. Et oui, le gaz de schiste du Canu Info du vendredi.
Barjac. Donc ça avait vu... Merde, putain, je hurle dans le micro. Mais c'est encore trop fort. Voilà. Bon. Du coup, on en avait parlé pendant tous les autres Canu Info, évidemment, du vendredi, qu'il y avait une mobilisation le week-end dernier, donc à Barjac. Donc, mobilisation contre l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste en France, mais pas que, mais de manière générale. Voilà. Et donc, ça a été assez bien réussi, puisqu'il y avait quand même 15 000 personnes dans ce petit bled. Donc voilà, et voilà, c'est juste pour dire que c'était chouette qu'il y avait autant de gens qui se soient mobilisés. Et du coup, pour rappel, cette mobilisation, elle a été lancée suite à l'annulation de l'interdiction du permis de Total dans cette région-là. Et donc après, les gens se sont dit « Ouh là là, mais c'est inadmissible ». Et du coup, ils ont lancé ce truc-là. Alors... donc Total a toujours du coup a récupéré son permis, mais il reste encore 133 permis qui sont en cours de renouvellement. Donc là, les gens disent aussi qu'il faut pas qu'ils soient renouvelés. Alors en fait, il y a un peu un jeu qui date depuis 2011-2012. Puisque alors là, Royal l'a rappelé donc suite à cette mobilisation que donc elle a rappelé qu'il n'y aurait pas de permis pour rechercher les gaz de schiste, etc. Et qu'il y a une réforme du code minier qui n'inclut pas du tout ce type d'exploration et d'exploitation. Et en fait, le gouvernement s'appuie uniquement sur la réforme de ce code minier et attend que cette réforme soit faite pour avancer un peu sur cette question-là. Et c'est ce qui fait un peu râler les gens, puisque ça date depuis 2012 qu'il y a eu le lancement de cette réforme. Et depuis, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est même passé un truc horrible, c'est que Total a récupéré son permis. Donc ça va pas du tout dans le bon sens. Voilà, et cette réforme du code minier, elle a été déclenchée justement par les premières mobilisations qui ont lieu en 2011 contre le gaz de schiste, donc mobilisation qui était dans la même région que Barjac, et qui était aussi due au fait que Total avait eu tous ses permis d'exploration et d'exploitation dans cette région-là. Donc, Total a obtenu le permis en 2010. Les premières mobilisations sont arrivées en 2011. Et la réforme du code minier a été enclenchée en 2012. Et donc depuis, ben voilà, les gens attendent que ça soit, que ça sorte, mais ça sort pas.
Et alors ils attendent en fait que ce soit marqué noir sur blanc qu'on puisse pas exploiter, enfin faire de la prospection et exploiter le gaz de schiste.
Voilà, c'est qu'il y a une clause très claire qu'on ne puisse pas faire d'exploration d'exploitation, parce qu'en plus l'autre embrouille, c'est qu'il y a eu un truc qui est sorti en 2011 pour limiter la casse. Ils ont dit, ben il est interdit d'exploiter le gaz de schiste en France avec la technique de fracturation hydraulique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les exploitants, ben ils obtiennent quand même des permis en disant qu'ils vont pas utiliser la technique de gaz de schiste, donc ils obtiennent des permis
de fracture hydraulique.
De fracturation hydraulique. Donc ils obtiennent leur permis d'exploration. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le permis d'exploration, il y a un flou. Ce qui fait que ça donne un peu automatiquement le permis d'exploitation. Donc en fait, ils placent juste leurs billes sur les terrains pour ensuite, ils se disent, bah, de toute façon, un jour, on pourra exploiter. Et donc, ils vont, merde, je parle trop. Et ils vont pouvoir exploiter. Donc voilà. Et donc, bon, voilà, c'était pour rappeler tout ça. Et j'avais une petite brève. J'avais une petite brève, mais du coup, je vous la dirai pas parce que c'est, on est à la bourre.
Mais il y a un sale type qui est mort en tout cas.
On
va aller de Barjac à Fessenheim et au Bugey pour vous parler de ces vieilles centrales nucléaires.
Ben oui, puis pour vous dire que, alors on ne sait pas vraiment s'il y a des effets d'annonce, quels sont ce qui retourne de géopolitique ou de la vraie militance anti-nucléaire, mais depuis quelques jours, et la Suisse et l'Allemagne, en plus des associations historiques qui militent contre le nucléaire, critiquent les vieilles centrales françaises. Alors, dans le collimateur, le EPR en cours de construction, dans le collimateur, les centrales du Bugey et de Cattenom en Moselle, mais aussi le EPR en cours de construction à Flamanville et le futur centre industriel de stockage géologique Cigéo de Bure. On vous a déjà beaucoup parlé des luttes de Bure et pour vous dire voilà aussi que c'est des luttes qui continuent contre le nucléaire où doivent être enfuis des déchets radioactifs. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? La ville et le canton de Genève, tout d'abord, ont annoncé mercredi, donc mercredi 2 mars, le dépôt d'une plainte contre X pour, je cite, « mise en danger délibérée de la vie d'autrui et pollution des eaux ». Franchement, moi, j'aime bien ce terme, quand même, « mise en danger délibérée de la vie d'autrui ». Je trouve que c'est quand même assez fort pour attaquer les centrales nucléaires. Mm-hmm. Donc visant le site nucléaire du Bugey, distant d'environ 70 km à vol d'oiseau, du coup, du canton de Genève.
Alors, et de chez nous aussi, quoi.
De chez nous, un peu plus près aussi, mais du coup, c'est ce qui justifie la plainte de Genève, qui ne se soucie pas des ressortissants français, mais bien des siens. Donc, aux attaques venues de nos voisins européens s'ajoutent des actions judiciaires engagées par des organisations françaises hostiles à l'atome. Donc, on peut parler, par exemple, de l'association Notre Affaire à Tous et le Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Antinucléaire, qui ont annoncé, du coup, jeudi, hier, qu'ils déposaient un recours devant le Conseil d'État en vue de l'annulation d'un arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaire, qui permettent, en fait, de déroger aux obligations essentielles de sécurité pour bon nombre d'industriels, qui est du coup un décret extrêmement grave dans la prolifération du nucléaire et notamment dans son contrôle. Donc on cite aussi quand même 5 associations et ONG, dont Sortir du Nucléaire, les Amis de la Terre et France Nature Environnement, qui ont décidé aussi d'attaquer devant le Conseil d'État un autre arrêté, celui pris le 15 janvier par la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, dont du coup on vous parlait tout à l'heure, sur le coût du futur stockage géologique des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue dans le sous-sol de la commune de Bure. Alors, et comme on est toujours au top de l'actualité dans les Canu Info, pour vous dire que à 16h, l'Agence de Sûreté Nucléaire considère qu'il n'y a pas de raison de fermer, en tout cas la centrale de Fessenheim en Moselle, du point de vue de la sécurité nucléaire. Donc pour l'instant, les réponses officielles des autorités françaises sont non, les centrales sont assez sûres pour être conservées et il n'y aura pas de réponse, en tout cas pour l'instant, de la part des pouvoirs et des autorités sur ces attaques. Elles nous font quand même bien plaisir et du coup, on rappelle aussi à tous les militants français de continuer à se mobiliser sur cette cause.
C'est important. Agenda ?
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda !
Wouhou ! Et donc, l'agenda, ça commence demain après-midi à 14h. Il y aura une conférence débat dans un lieu qui s'appelle le Jusqu'ici. Et c'est où le Jusqu'ici? C'est au 169 Grande Rue de la Guillotière, dans le 7e évidemment. Et cette conférence débat, qu'est-ce qu'on y dira? On parlera, le thème en tout cas, c'est la révolution dépossédée. Que faire contre l'impérialisme? Bonne question. Sinon, si ça vous botte pas, non, c'est pas une bonne question. Si ça vous botte pas, vous pourrez toujours aller à Bron, à l'hippodrome de Paris. Et depuis 3 jours, enfin, ça a commencé hier et ça a fini dimanche, je crois. C'est le salon du livre, la fête du livre. Et vous pourrez notamment, à partir de 15h30, écouter et voir Virginie Despentes et Édouard Louis discuter ensemble. À 17h, il y aura notamment Jean Rouault. Et à 19h30, Virginie Despentes, encore elle, lira du Louis Calaferte, des extraits de Requiem des Innocents, pour ceux qui connaissent, sur la musique du groupe Zéro, c'est vraiment son nom, et ça va être vraiment bien a priori. Mais surtout, c'est surtout là qu'il faudra être, c'est moins loin en plus, à 19h30, pétante, il faudra être à l'atelier des Canulars, c'est au 91 rue Montesquieu, à la Guillotière.